RCI TV vous présente Parole de femme, le rendez-vous des femmes avec Annabelle pour vivre sa foi au quotidien.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femme. Toute cette semaine, nous avons le plaisir d'être avec le pasteur Viviane Dalot. Bonjour, pasteur Viviane.
Bonjour, Annabelle. Bonjour.
On est vraiment très, très heureuse de vous recevoir.
Extrêmement.
Et oui, pasteur Viviane, nous allons passer toute cette semaine avec vous et nous allons parler de la servante de Dieu qui est aussi la femme du serviteur de Dieu. Comment elle peut s'épanouir? Quelles sont ses souffrances? On va parler de votre livre aussi. Quels sont ses défis? Et puis, comment relever ces défis? C'est un grand sujet. Je pense déjà que on va manquer de temps. Je pense que on va se retrouver à court de temps d'ici la fin de la semaine, mais on va faire du mieux qu'on peut. Et puis, pour vous présenter, vous êtes maman de beaucoup de filles.
Oui, quatre filles.
Quatre belles grandes filles. Et vous êtes aussi l'épouse du pasteur Roland Dalot. Oui, et depuis quelques temps maintenant, vous avez un ministère qui s'appelle Dalot Ministries.
Bravo. Dalot Ministries, oui. Ça fait 2 ans maintenant, pratiquement 2 ans que nous sommes à plein temps à Dalot Ministries, parce qu'il y a 2 ans, on a laissé l'Église à d'autres personnes, à d'autres serviteurs de Dieu. Et nous, nous sommes concentrés sur Dalot Ministries selon que Dieu voulait pour nous.
Eh bien, super. Nous, on est contents parce que du coup, ça nous permet de vous avoir avec nous. Et comme je disais, vous avez écrit un livre, Les souffrances inconnues de la femme du serviteur de Dieu. Et on va en parler tout au long de la semaine. Vous avez aussi pu en parler il y a quelques temps dans l'émission Bonjour chez vous.
Oui.
Donc, vous avez eu l'occasion de présenter avec Nadine. Et le livre est disponible sur louange.store. Et c'est certain que tout le monde va vouloir se l'acheter de toute façon au fur et à mesure des jours. Et on va parler du coup de la femme du serviteur de Dieu, parce que c'est une femme à la fois quelquefois qu'on ne comprend pas, quelquefois qu'on n'aime pas, quelquefois qu'on jalouse aussi, et la femme du serviteur de Dieu est elle-même une femme qui peut avoir des défis, qui peut se poser des questions, qui peut aussi souffrir et ne pas forcément avoir un vis-à-vis pour pouvoir parler, s'exprimer. Et je trouve ça vraiment formidable que vous ayez eu le courage, après toutes ces années de ministère, de parler pour toutes ces femmes qui savaient peut-être pas où parler, quelles étaient les réponses, et pour toutes les jeunes femmes aussi qui entrent dans le ministère. C'est vraiment, vraiment, c'est vraiment une grande source de bénédiction. Et pour commencer, on va voir aujourd'hui qui est finalement la femme du serviteur de Dieu. Qui est cette fameuse femme,
pasteur Viviane? La femme du serviteur de Dieu, moi je dirais en premier que c'est cette bonne chrétienne. C'est celle qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui vit d'abord pour Dieu. C'est ça d'abord la femme du serviteur de Dieu, parce que c'est dans la mesure où elle est une bonne chrétienne qu'elle pourra bien jouer son rôle de femme de serviteur de Dieu aux côtés de son mari. Donc je commencerai par dire d'abord la femme du serviteur de Dieu, c'est celle qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui est aux côtés de son mari. Et qui cherche à grandir.
Bon, déjà, ça rétablit pas mal de choses, parce que c'est vrai qu'on a peut-être tendance à oublier, à cause de la fonction, à cause du titre, que tout simplement la femme du serviteur de Dieu est une enfant de Dieu, et qu'elle a sa propre relation avec Dieu. Et vous toutes, vous aviez rencontré le Seigneur avant de rencontrer vos maris, n'est-ce pas?
Oui, moi j'étais revenue au Seigneur, j'étais élevée chrétiennement, mais je suis vraiment venue au Seigneur pas très longtemps avant de... En fait, je suis revenue au Seigneur et j'ai rencontré mon mari qui était mon ami pendant quelques années. Mais oui, certainement, j'ai pu développer cette relation avec Dieu. Il a vu que j'étais vraiment engagée aussi, que j'aimais vraiment Dieu de tout mon cœur. Et puis, Dieu lui a montré que j'étais son épouse. Mais oui, j'ai servi Dieu avant même de pouvoir entrer.
C'est très bien.
Oui, exactement.
Ce qui est très
éprouvé à ce niveau-là aussi.
Ce qui est très important, parce que quand on est femme de serviteur de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on est juste là à côté de son mari. On accompagne son mari, mais on est d'abord enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu est appelé à servir. Nous sommes sauvés pour servir. Mm-hmm. Donc, on suppose que toute femme de serviteur de Dieu est servante de Dieu. Mm-hmm. Elle est d'abord pour Dieu, parce qu'elle a... Sa vie a commencé entre les mains de Dieu, elle est au service de Dieu et elle est elle-même servante de Dieu. Parce que nous tous en tant qu'enfants de Dieu, nous cherchons à accomplir la mission que Dieu nous a donnée d'aller et de faire de toutes les nations les disciples.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est dans le fait d'avoir cette communion personnelle avec Dieu, c'est que finalement, on a aussi reçu des promesses avant même quelquefois de pouvoir se marier. On a reçu des paroles de la part du Seigneur qu'on ferait certaines choses. Ce qui montre que bon, ça fait partie de notre destinée. C'est pas facile à démêler parce que oui, on est femme de serviteur, mais à la fois on est enfant de Dieu et on veut servir aux côtés de nos maris. On a une place à jouer, à définir quelle est cette place. Mais en même temps, on a aussi des choses à accomplir qui, même si je dirais, même si on n'était pas femme de serviteur, même si finalement le mari partait ou quoi que ce soit, bah il y a quelque chose, il y a un dépôt qui devrait rester et continuer de se manifester.
Surtout pas, quand on est marié avec un serviteur de Dieu, il ne faut surtout pas que ça devienne notre identité. Il ne faut surtout pas qu'on devienne l'épouse du serviteur de Dieu. On est d'abord enfant de Dieu. On est d'abord un cœur à cœur avec Dieu et notre relation très avec Dieu. Parce que si du jour au lendemain, pour une raison ou pour une autre, on n'est plus serviteur de Dieu à plein temps dans une église ou dans le ministère qui était celui de notre mari, qu'est-ce qu'on est ? Qu'est-ce qu'on devient ? On n'est plus rien ? Non, on est une enfant de Dieu. Et c'est pour ça qu'avant, pendant et après, on reste toujours l'enfant de Dieu avec la relation privilégiée qu'on a avec lui. Et c'est, je pense, pour toutes les femmes qui sont mariées avec un serviteur de Dieu, la priorité, c'est de cultiver notre relation avec Dieu. Puis être, c'est ça qui doit nous définir. Pas le fait qu'on ait l'étiquette femme du pasteur ou femme de l'évangéliste ou femme de so-and-so. On est d'abord enfant de Dieu et puis ça, c'est ça qui nous définit.
Mais je veux renchérir ce que tu dis, Anne, parce que souvent, l'identité de la servante de Dieu, c'est vraiment dans son service et dans son titre. Et vraiment, notre identité doit d'abord venir du fait que nous sommes premièrement des filles des filles de Dieu. Et vraiment que cette relation que nous avons avec avec Dieu, le Père, le Fils et son précieux Saint-Esprit, soit notre tout. Parce qu'il faut juste s'imaginer que si nous, comme tu dis, s'imaginer que si on ne servait pas ni dans une église ou d'une manière vraiment à temps plein, si on nous enlevait tout, est-ce qu'il me reste ma relation avec Dieu? C'est ça, dans le fond, qui nous tient. C'est ça qui nous permet d'œuvrer. C'est ça qui nous permet de tout faire. Donc, ça, c'est la base, c'est la fondation de la femme de Dieu. C'est sa relation. C'est sa relation avec Dieu.
Oui, effectivement, c'est très important de connaître son identité. C'est un point important parce que la plupart des femmes, elles ne connaissent pas d'abord leur propre identité. Elles ne savent pas qu'elles sont un être créé par Dieu avec des dons et des talents pour être utilisé par rapport à la mission que Dieu lui donne. Alors, quand on ne prend pas conscience de son identité, qu'on n'existe pas par hasard, qu'on n'existe pas pour l'homme, pour le mari d'abord, mais qu'on existe d'abord pour Dieu. Parce qu'au fait, ensemble, je suis avec mon mari, je suis avec Roland Dallot, Marie à Roland Dallot, ensemble, nous servons au but de Dieu. À ses côtés, je sers au but de Dieu. Je connais mon identité, je me rapproche de Dieu. Chaque jour, je fais cet effort de grandir dans la connaissance de Dieu et ça me permet de mieux me connaître et d'être très utile dans la vie, dans la société, dans l'église, aux côtés de mon mari.
Parce que finalement, on a aussi besoin des directions du Saint-Esprit, tout simplement, pour savoir comment faire, parce que votre vie n'est pas la vie d'Anne, et la vie d'Anne n'est pas la fille de Mathilde. Pourtant, vous êtes toutes mariées à des serviteurs de Dieu, mais il y a des défis, il y a des contextes, il y a des missions, il y a des mandats différents, des caractères, des personnalités aussi différentes. Donc, c'est sûr que c'est pas, ce serait même maladroit et dangereux que de dire, OK, les femmes de serviteurs, vous devez faire ci, vous devez faire ça, être comme ci et être comme ça, parce que finalement, ça risque de pas, dans la pratique, au quotidien, ça risque de pas fonctionner. Et comme la Bible ne nous dit pas, ne nous donne pas des indications précises sur plein de choses dans notre vie. OK, toi, tu dois être docteur, toi, tu dois être fermier, toi, tu dois élever des chèvres. La Bible ne nous le dit pas, mais on a besoin de la direction du Saint-Esprit pour savoir ce que nous, on doit faire de notre vie et on doit avoir cette même direction.
Toi, tu élevais des chèvres, Annabelle ?
Bah non, moi, il ne l'a pas dit, non.
J'étais une toute jeune femme de pasteur. J'aurais tellement voulu qu'on me donne le mode d'emploi et qu'on me dise femme de pasteur,
c'est clair.
Comme un cahier des charges.
Oui.
Ah, j'aurais tellement aimé qu'on
t'aurais tout coché en
j'aurais
plus.
J'aurais tout coché.
Voilà.
Et j'aurais dit bon, ok, là je suis ça. Ah, là il y a des progrès à faire. Ah, j'aurais tellement aimé qu'on me donne le mode d'emploi, mais il y en a pas de mode d'emploi parce qu'on est fait unique. Dieu nous veut unique. On a des talents uniques. On a une destinée unique. Et y a pas, on le conçoit pour des ministères d'hommes. Mmh. On conçoit que ben le ministère de tel frère, c'est pas le ministère de tel frère, et qu'ils ont vraiment des talents différents. Ben c'est la même chose pour leurs épouses. Mmh. Donc y a pas un moule de femme de pasteur dans lequel tu dois absolument rentrer, te contorsionner pour fitter au moule.
Ça.
Je pense que ça a été une erreur dans beaucoup de générations de dire il y a un moule de femme de pasteur, elle doit faire ça, être comme ci, comme ci, comme ça. C'est complètement faux. On est unique. Et Dieu, grâce, merci Seigneur, on nous a fait avec des talents particuliers et une destinée particulière. Mm-hmm. Donc déjà, première chose, il n'y a pas de moule. Mm-hmm.
Mm-hmm. C'est pourquoi quand on connaît son identité, on connaît ses talents, on connaît ses dons, alors là maintenant, ce moment, on commence à chercher à savoir quel est l'appel de mon mari, quelle est la particularité dans son appel. Tous pasteurs, mais chacun avec une particularité. Et c'est par rapport à ces particularités que je veux essayer de être utile aux côtés de cet homme. Tu vois, c'est très important de connaître son identité. Mm-hmm. Chacune de nous est unique et chaque pasteur aussi est unique. Et notre Dieu, c'est un Dieu de diversité.
Mm-hmm.
Parce qu'il ne donne pas la même chose à tout le monde. Mm-hmm. À certains, il en a donné deux, à d'autres trois, d'autres quatre, d'autres cinq, d'autres ça dépend. On peut avoir un pasteur de 5000 membres n'est pas le même pasteur d'une église de 400 personnes ou de 100 personnes. Un apôtre, c'est pas la même chose avec un pasteur. Donc vraiment, connaître son identité, c'est très important.
Mais je voudrais renchérir ce que vous dites, mesdames, parce que moi, j'ai eu de la difficulté, à trouver ma place, comme tu disais, Anne, parce que souvent, on croit que la servante, dans mon cas, c'était épouse de pasteur, ça fait exactement ça, ça joue du piano, ça fait si... vous comprenez? Et puis moi, j'avais des complexes, j'étais complexée parce que j'entrais pas dans les critères.
Tu ne jouais pas au piano.
Ben, je pianote, mais non, je servais pas dans cette dimension-là. Et j'ai vraiment eu besoin de l'aide de l'Esprit de Dieu pour m'aider à trouver c'était quoi ma place. Et bon, après quelques années d'inconfort, vraiment, j'ai vraiment trouvé une paix. Et je veux encourager celles qui nous écoutent que oui, vous êtes unique et que vous avez un appel spécifique à servir aux côtés de votre époux. Et l'Esprit de Dieu va vous dire quel est votre rôle. Oui, nous avons tous le rôle de rendre la tâche facile, d'alléger, de les soutenir dans la prière. Il y a des choses qui sont... Oui,
général,
c'est général, mais à savoir de quelle manière nous on sert, eh bien, je pense que l'Esprit de Dieu est là pour nous assister et on peut trouver une paix. Et non, il n'y a pas de moule où on doit reproduire exactement que la femme du pasteur doit absolument ou la femme du serviteur doit l'accompagner partout, jouer du piano, blablabla. Si vous n'avez pas de talent dans le piano,
c'est mieux pour tout le monde.
Ça va être difficile. Donc, vraiment que les femmes qui nous écoutent aient le cœur rempli de paix par rapport au fait que Dieu les a créées uniques et que leur appel aux côtés de leur époux est également unique et que l'Esprit de Dieu dans le lieu secret va vraiment donner les pistes à savoir comment...
Moi, le choc que j'ai eu, moi, à mes débuts, bon, disons, quand j'ai rencontré mon mari et qu'il m'a dit qu'il était appelé à servir Dieu à temps plein, le choc que j'ai eu, c'est de observer les femmes de pasteurs. Quand j'observais les femmes des pasteurs, j'ai réalisé chaque fois, la plupart d'entre elles, elles n'étaient pas si heureuses, si épanouies. C'est comme si elles ne participaient pas, elles ne s'impliquaient pas. C'est comme si elles revendiquaient quelque chose. C'est comme si elles se plaignaient de quelque chose. C'est comme si elles étaient frustrées, blessées. Et ça m'avait vraiment choquée. Et je me posais la question, je me disais, tiens, moi en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Jérémie 29, 11 me dit, que Dieu dit, je connais le projet que j'ai formé sur toi, projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Mais en tout cas, je vois pas l'espérance rayonner sur ce visage, je ne vois pas le bonheur rayonner sur ce visage, et je me suis dit, en tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas normal ou qui ne se fait pas bien, et je me suis dit, après avoir reçu ce choc, je me suis dit, Seigneur, en tout cas, je crois en ce Dieu qui m'a appelée et qui va faire de moi la meilleure femme, des femmes de serviteurs de Dieu. Seigneur, moi, je crois que tu peux faire mon bonheur dans ce couple. Je crois que tu peux faire mon bonheur. En tout cas, je crois en ces dieux-là. Et je me suis dit, je veux m'y mettre.
Et c'est vrai que le ministère a certaines responsabilité et une certaine de lourde responsabilité parfois envahissante et auquel on n'est pas forcément préparé quand on s'imagine se marier, fonder une vie de famille et ce qui fonctionne finalement pour peut-être un certain couple qui vont être fonctionnaires, etc. Pour eux, c'est parfait, ils ont un tel équilibre et puis il y a comme on a comme beaucoup de normalité dans le monde, une famille normale, c'est deux enfants en gros. Ouais, voilà. Et des choses comme ça, les journées de travail, c'est 8h, 17h. La journée de repos, c'est samedi, dimanche. Et il y a beaucoup de stéréotypes. Et puis, quand on essaye de faire entrer notre vie dedans, et quand on est dans le ministère, bah, il y a plein de choses qui rentrent pas dedans. Alors, on peut décider d'être frustré parce que ça rentre pas dedans, parce que c'est comme ça que je voulais être heureuse. Ou alors de se dire, comme vous, bah, le ministère est là et on veut servir, on aime le Seigneur, on va trouver notre bonheur d'une façon différente. Et en fait, je pense que c'est là aussi toute la sagesse que vous avez pu recevoir, c'est de trouver votre bonheur et de pouvoir ne pas être passive. Je vais attendre que le bonheur me tombe sur la tête. Sur la tête. Vous voyez, moi, ça m'est tombé dur sur la tête. Nadine, tu voulais dire ?
Non, mais je voulais dire, par rapport à tout ce qu'on dit, que c'est tellement important de savoir, oui, son identité, mais en tant que femme, d'abord, de savoir qu'on a sa place. Et quand nous-mêmes, on est sécure en sachant que ce mariage ici, c'est Dieu qui me l'a donné, c'est ma place qui est là, ça va faire que quand les gens vont nous imposer leur modèle, parce que des fois, c'est nous qui avons un modèle, parce que des fois, nous-mêmes aussi, on se dit, mais est-ce que je suis vraiment, j'ai l'étoffe d'être la femme de cet homme de Dieu, parce que moi, quand je vois des femmes de serviteurs, elles sont grandes, ou comme elles ont un talent, elles chantent, ou elles font quelque chose de particulier, et je ne l'ai pas, et on se disqualifie nous-mêmes, ou les gens nous imposent. Et chaque personne, maintenant, a son modèle personnel de son background ou quoi que ce soit. Alors, c'est important que nous-mêmes, nous ayons cette assurance de savoir que j'ai ma place là et la relation avec le Saint-Esprit, comme tu as dit, Mathilde, pour qu'on ait cette sagesse par rapport à notre mari. Parce que les défis que nous allons avoir sont personnels à nous. Mm-hmm. Et si on a cette sagesse, on a ce rapport direct avec le Seigneur, parce que des fois, la femme peut se retrouver que elle passe par son mari. C'est comme si son mari est l'interprète de ce que Dieu a à dire pour elle. Mais quand toi-même, tu as ta relation avec Dieu, ben toi-même, tu es capable de recevoir des choses de la part du Seigneur et de conseiller bien ton mari. Mais si toi, tu as l'impression que tu es toujours la roue de secours ou la personne de trop, mais même votre ministère va battre de l'aile, tu comprends? Et ça, c'est vraiment important aujourd'hui. On parle à des femmes pour dire, écoute, remettez-vous en question, pour dire, Seigneur, peut-être que j'ai laissé passer les opinions des autres avant. Une dame plus âgée dans l'église, j'ai pensé que c'est elle qui allait me montrer c'est quoi le modèle d'être une femme de pasteur. Ou bien j'ai vu sur Internet femme un tel, en me disant que c'est ça le modèle. Mais toi, montre-moi le modèle par rapport à ma personnalité, par rapport aux dons et aux talents que tu m'as donnés, et par rapport aussi à la bergerie que nous aurons à gérer. Parce que ça diffère aussi de chaque milieu.
Oui, c'est ça. Oui, mais justement, mais là, tu parlais de toutes les attentes. Et si on veut être heureux dans le ministère, si on veut être heureuse dans le ministère aux côtés de notre mari, je pense que c'est vraiment important de ne pas essayer d'adopter le cahier des charges qu'on va nous imposer. Parce que toutes les églises ont un cahier des charges un peu implicite par rapport aux épouses de pasteurs qu'ils ont eues avant, les modèles qu'ils ont pu croiser. Et chacun, tu peux demander à tout le monde dans l'église, chacun a une idée précise de ce que doit être une femme de pasteur. Et je suis sûre que ça ne se recoupe pas tout le temps. Chacun a des attentes différentes.
Bah, moi, je m'attends à ce qu'elle soit parfaite.
C'est tout. Mais même à ça, la perfection, c'est très discutable. Pour les uns, ça va être la perfection. Pour d'autres, ça va pas l'être. Donc, on va être vraiment malheureuse si on essaye de se contorsionner pour rentrer dans ces attentes-là. Il y en aura des attentes. L'Église a des attentes, tout le monde a des attentes, mais on sera malheureux si on essaye de calquer notre comportement à ces attentes-là. Il faut vraiment se mettre devant Dieu pour trouver ce que Dieu attend de nous dans cette situation-là.
J'allais justement rebondir sur ça pour dire que vraiment les attentes, tout le monde a des attentes, mais vaut mieux travailler sur les attentes des dieux. Qu'est-ce que Dieu voilà. attend de moi?
Amen.
Vaut mieux vraiment Alléluia. Se concentrer, être focus sur les attentes de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Moi, j'ai vraiment à prier, à réfléchir. Ça m'a pris beaucoup de temps. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je suis appelée à faire? Parce que les gens te traitent selon que eux attendent de toi. Et ça, c'est pas évident pour la femme du serviteur de Dieu. Tu vas chez elle, quand elle t'approche, mais tiens, mais les enfants là, pourquoi tu n'as pas fait ça avec les enfants? L'autre t'approche, mais le mari, mais pourquoi il maigrit? Pourquoi l'autre qui t'approche, mais on dirait que tu pries pas suffisamment parce que le pasteur ces jours-ci la prêche, c'est pas ce qu'il faut. Et donc, alors les attentes, vaut mieux travailler sur les attentes de Dieu par rapport à cet appel.
Amen. Je pense que les hommes, on peut toujours les décevoir. Mmh. Les gens, on peut facilement décevoir les gens. Il y avait une image qu'un pasteur m'a donnée une fois dans un entretien. Il dit chaque personne représente un dossier qui est sur mon bureau. Et il y a autant qu'il y a de personnes dans mon église, autant j'ai de dossier, une filière ou une chemise ou je sais pas.
De dossier.
Un dossier. Et là, j'avais vu l'image et je me suis dit, oh mon doux, s'il y a 400 personnes, vous avez 400 dossiers sur votre bureau.
Avec des attentes.
Avec des attentes différentes. Et dans votre cas, pasteur, c'était probablement 4-5 000. Ben, c'est ingérable. Donc, l'important, c'est vraiment de toujours rechercher à plaire à Dieu, de faire ce que Dieu nous demande. Et en faisant ça, on va répondre à ce que Dieu nous appelle à faire et en même temps aux attentes de certains, mais c'est certain qu'on ne réussira pas à plaire et à remplir les exigences de tout le monde.
Mais si on remplit les exigences de Dieu,
c'est l'essentiel.
On va avoir aussi la satisfaction de faire ce que Dieu nous appelle à faire. Et puis je crois qu'il y aura aussi la grâce et l'onction pour pouvoir le faire. Et justement, lorsque on est femme de serviteur et qu'il n'y a pas de joie, que tout est dur, que tout est sec, que tout demande un effort insurmontable, peut-être que c'est vraiment le moment de se mettre devant Dieu et de dire, bah, Seigneur, si je fais mal les choses, pas parce que je t'aime pas parce que je suis pas une bonne chrétienne, parce que alors là, il y a tout un tas de raisonnements, de condamnations, etc. Mais juste de dire, bah, moi, j'ai cru que c'était ça le service, mais bah, peut-être que je me suis trompée, donc juste montre-moi comment moi je dois te servir. Et je crois vraiment que le manque de joie et qu'un sentiment constant d'effort laborieux qui ne porte pas de fruits, qui au contraire apporte juste de l'amertume et des douleurs et des souffrances, c'est le signe que bah, peut-être Dieu veut nous utiliser d'une autre façon. Parce que oui, il y a des difficultés, oui, il y a de l'opposition, mais il y a une joie profonde aussi à servir le Seigneur. Et il y a beaucoup moins de joie à servir les hommes, parce que comme t'as dit, on va toujours les décevoir. Et puis, les gens nous le font savoir quand on les déçoit. Et il n'y a pas de consolation dans la prière. Il n'y a pas de consolation dans la présence de Dieu parce qu'on n'a pas non plus l'assurance d'avoir fait ce que Dieu nous appelait à faire. Donc finalement, ça amène à la dépression. Ça amène à des pensées noires. Je vais abandonner le ministère. J'aurais peut-être pas dû me marier avec telle et telle personne. Et c'est peut-être juste un réajustement au niveau de la manière de servir le Seigneur.
Tout l'importance aussi de comprendre par rapport à tout ce que tu viens de dire, d'où l'importance vraiment de comprendre que quand nous prions, prenons plus le temps de parler à Dieu de notre mission. Voilà, Seigneur, tu m'as appelé à faire ceci, voilà ce que je rencontre comme difficulté, parce que la tendance est plus prier, Seigneur, change mon mari, change les membres de l'église, Seigneur, tu vois ce qu'ils sont en train de me faire. Non, Seigneur, c'est mon appel. Qu'est-ce que je dois changer en moi? Qu'est-ce que je suis appelée à mieux faire? Qu'est-ce que je dois arrêter de faire? Qu'est-ce que mon mari est appelé à faire? Donc, vraiment parler de sa mission à Dieu pendant les moments de prière. Moi, ce n'est pas pour me vanter, mais très jeune, je priais, je disais, Seigneur, je préfère jeûner. Bon, je reconnais maintenant, c'est venu de la part de mon responsable de cette époque-là, quand j'étais encore à la jeunesse, au département de la jeunesse, il disait « Passez plus de temps à prier pour votre mission. » Et moi, je priais, je disais « Seigneur, je veux que tu m'aides à être celle que tu veux que je sois. Mm-hmm. » Au lieu de jeûner, de jeûner pour demander le mariage, mm-hmm. de jeûner pour demander l'argent à Dieu, en tout cas, c'est mon principe, je préfère jeûner, même aller 40 jours à la montagne, mais pour parler de la mission que Dieu m'a confiée. Mm-hmm. Parce que je sais que c'est en réussissant cette mission que j'aurai tout le reste. Mm-hmm. Je serai épanouie, je me sentirai... Parce que nous sommes tout au fait à la recherche d'un épanouissement. Chacune de nous veut se sentir bien, veut se sentir heureuse, veut, quand elle regarde son mari, elle a un sens de bien-être, d'être utile à quelque chose. Alors, je crois que c'est le mieux serait de passer du temps avec le Créateur qui nous a envoyés ici sur Terre.
Mmh. Et juste pour, avant de terminer cette émission, notre thème c'était qui est la femme du serviteur de Dieu, et on a vu qui est la femme du serviteur de Dieu pour elle, mais aussi aux yeux des autres. Mmh. Les autres peuvent avoir une image de la femme du serviteur de Dieu, parce que la Bible dit oui, on ne fait qu'un, et c'est vrai, on ne fait plus qu'un, mmh. mais dans notre mariage, mais on ne fait pas forcément plus qu'un pour le reste mmh. du monde entier, et il peut y avoir aussi comme une confusion finalement entre ce que notre mari fait et ce que nous, on attend, ce qu'on pourrait attendre de nous, de dire bah, le mari est pasteur, j'aimerais que cette femme-là aussi soit pasteur, j'aimerais qu'elle fasse tout ce que son mari fait.
Bon,
je sens que ma question n'était pas claire, mais je suis sûre que vous allez réussir à répondre.
Je voulais en fait expliquer ce que tu voudrais dire. Est-ce que la femme du pasteur doit nécessairement être pasteur elle-même?
C'est parfait.
Doit nécessairement avoir un micro, doit nécessairement être leader dans l'église. Non, la femme du serviteur de Dieu, elle doit être... elle doit... Si je dois dire, bon, je cherche le bon mot pour ne pas...
C'est moi qui ai semé la dizanie.
Que je réponde différemment. La femme du serviteur de Dieu, elle est elle. Mm-hmm. Elle est elle. Mm-hmm. Elle n'est pas le pasteur. Le pasteur, c'est lui le pasteur. Elle ne peut pas jouer le rôle de son mari. Mm-hmm. À ce moment-là, elle passera à côté. Parce que si je commence à jouer le rôle de mon mari, si moi-même aussi je veux être leader, non, je suis la femme du pasteur, mais en même temps, je réponds à l'appel de Dieu pour mm-hmm. moi. Mm-hmm. Ça peut être monitrice de l'écodie. Je suis aux côtés de mon mari, je l'aide dans son travail, mais en même temps, je ne suis pas pasteur comme lui, je suis monitrice de l'école de dimanche, ou bien je suis responsable à la jeunesse, ou je suis choriste, je suis chantre mm-hmm. à l'église, ou encore, si j'ai aussi l'appel d'apporter, d'exhorter, de partager la parole, je peux le faire, mais je ne suis pas le pasteur. Mm-hmm. Il faut vraiment qu'il y ait une différence. Mm-hmm. Je ne suis pas le pasteur c'est lui. Je ne me suis pas mariée au pasteur, d'abord je me suis mariée à l'homme.
Mm-hmm. Qui est pasteur. Bien, merci pour cette réponse claire, pour la réponse la moins claire, pour la question la moins claire du monde. Merci beaucoup. On va se retrouver demain et vous serez encore avec nous et nous allons parler plus du serviteur de Dieu, cet homme à plusieurs casquettes et comment jongler entre ses différents rôles. Donc, à demain.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes sur emcitv.com.